La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC. RMC, en route pour Paris 2024.
En route pour Paris 2024, on se rapproche à grands pas de ces Jeux Olympiques. Évidemment, tous les athlètes sont fin prêts. Il y en a certains qui vont encore aller chercher leur billet. On en parlera tout à l'heure avec Aurélien Tiercin qui est à Rome à l'occasion des championnats d'Europe d'athlétisme. Les athlètes, les nageurs ne sont pas encore certains de disputer ces Jeux Olympiques. En revanche, il y en a une qui est tranquille de ce côté-là depuis un moment maintenant, mais qui n'est pas tranquille pour rien, parce qu'elle est évidemment notre grande championne et on est ravis d'accueillir Romane Dico avec nous. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris de ses nouvelles. Bonjour Romane.
Bonjour.
Bonjour, on est ravis de t'accueillir. Je crois que tu es de l'autre côté de Paris, tu es à Roland-Garros cet après-midi, c'est ça?
Exactement, c'est ça.
Bon, tu vas assister à la finale dames qui débute dans une petite demi-heure maintenant.
C'est ça, on m'encourageait un petit peu, ça fait du bien de venir voir des épreuves en France avant les Jeux Olympiques, n'est-ce pas?
Ben exactement, surtout que Roland-Garros sera un site olympique hein, puisque c'est là-bas que se dérouleront les épreuves de tennis. Bon, toi tu ne seras pas à Roland-Garros, tu seras ailleurs, au Grand Palais éphémère, c'est là qu'auront lieu les compétitions de judo. Bon, comment ça va Romane? Parce que ça fait longtemps qu'on ne t'avait plus eu, je crois que tu avais décidé un peu de ne plus trop parler, te concentrer un peu sur ta préparation, mais ça va plutôt pas mal, hein. on a suivi tes performances, c'est toujours au top hein.
Toujours au top, tant mieux. C'est vrai que j'avais décidé de mettre un peu le frein à main, si je puis dire ça comme ça. Bon, je préparais le Grand Slam du Kazakhstan, donc c'était important pour moi de verrouiller un petit peu. Mais le Grand Slam s'est bien passé. Là, il reste un peu moins de 2 mois avant le grand moment. Donc ça se passe bien, la préparation se passe bien et c'est cool.
Ben oui, c'est cool. Donc là, il n'y aura plus de compétition pour toi. Astana, c'était ton dernier Grand Slam. D'ici les Jeux, il n'y aura plus de grandes compétitions.
Exactement, c'était vraiment une dernière compétition à 2 mois et demi avant les Jeux pour prendre le dernier repère. Là, c'est que la préparation, du physique, préparer bien le mental, plein de stages avec l'équipe de France et ce sera parti.
Ben oui, ce sera parti. Bon, dis donc, à Astana, en plus, t'as pas traîné, quoi. Hein. Tu as imposé ta force à toutes tes adversaires. T'as battu toutes tes grandes rivales que tu auras aux Jeux Olympiques. T'as tenu à marquer le coup. La patronne, c'est qui? C'est Romane. Hein. Faut le savoir maintenant. Hein.
Forcément, c'était important. Dernière sortie avant les Jeux Olympiques. Il fallait montrer que je voulais le titre, que je veux le titre. Et c'était des victoires importantes face à la japonaise que je n'avais pas eu depuis très très longtemps dans les mains. Donc voilà, une victoire qui compte et qui était très importante pendant cette dernière phase.
Tu as l'impression aujourd'hui que tu es clairement la fille à battre dans ta catégorie, Romane?
Je pense que ça dépend pour qui. Je ne sais pas si je suis la fille à battre, mais je suis une des prétendantes du titre, ça c'est sûr. Je pense que tout le monde le sait. Et je compte bien leur montrer que oui, c'est moi qui gagnerai les Jeux et personne d'autre, quoi.
Ah ben d'accord, ça c'est dit comme ça au moins. Et
puis il faut le dire.
Mais tu as raison, faut le dire. Mais c'est vrai qu'on reproche souvent aux Français de ne pas être ambitieux. Toi, voilà, c'est clair dans ta tête. Tu as ton palmarès aussi pour ça. Donc il n'y a pas de raison de se cacher. Toi, tu es là pour dire je ne vais pas remporter une médaille, je vais décrocher la médaille d'or.
Exactement, je vais vraiment le 2 août pour combattre pour la médaille d'or et rien d'autre.
Alors, Romane, le fait de disputer quand même certaines compétitions, tu en as quand même disputé pas mal cet hiver et ce printemps, fait qu'aujourd'hui, tous tes adversaires ont décortiqué ta façon de combattre, que ce soit par des vidéos ou même le fait de t'avoir, de tenir ton kimono. Est-ce qu'on peut encore cacher des choses? Est-ce que tu peux encore cacher des choses d'ici la compétition olympique en août?
Bien sûr. Après, on ne va pas se mentir, hein, mes techniques favorites, tout le monde les connaît, mais tout comme je connais celles aussi de mes adversaires. Donc voilà, on s'étudie beaucoup, ça fait partie du jeu. Mais j'ai certaines choses cachées quand même dans mon sac pour la finale olympique.
Il y a des trucs cachés encore, tu as réussi à cacher des trucs.
Évidemment, on ne montre pas tout, jamais.
Ouais, c'était Diriner qui disait, moi je veux pas faire trop de compètes avant les Jeux parce que justement je veux leur réserver quelques petits trucs qu'ils vont découvrir le jour de la finale. D'ailleurs vous combattrez le même jour hein, tous les deux hein.
Exactement, un doublé pour la France le 2 août.
Oh là là, doublé, deux médailles d'or. Ce sera quasiment la fin des épreuves de judo. Il restera l'épreuve par équipe qui aura lieu le lendemain, c'est ça, hein, Roman? Le lendemain, le surlendemain, je ne sais plus. Allô? On a perdu Roman? J'ai l'impression qu'on a perdu Roman Dico, qui était en direct de Roland-Garros. Une dernière petite tentative. Roman, est-ce que tu nous entends? Non, je crois qu'elle est allée...
Ah, je vous entends.
Ah, ça y est, on t'a récupéré, on t'avait perdu un peu.
Ah, oui, parfait.
Je disais ton épreuve le même jour que t'es dit. Le lendemain, il y a encore l'épreuve par équipe. Mais autrement, c'est vraiment, tu arrives en fin de compétition, hein, sur le judo. Hein.
Oui, c'est ça. Donc avant moi, il y aura eu plein de titres d'ailleurs pour la France, pour les légers, et ensuite on va terminer en beauté avec le doublé avec Thésie et moi, et ensuite le titre par équipe. On signe pour ça, non?
On a signé pour ça, on est bien d'accord. Qu'est-ce que tu vas faire avant? Est-ce que tu vas t'installer au village olympique avec ta machine à coudre? Est-ce que tu vas aller encourager les copines? Ou alors on perd un peu d'influx à se mettre, à faire monter l'adrénaline pour les copains et les copines qui vont combattre avant toi?
On va faire tout ça, mais en gérant. Machine à coudre obligatoire avec moi dans ma chambre, ça c'est sûr. Mais forcément, on va aller encourager les copines, les copains aussi, ça fait du bien. Pas trop, parce que comme vous l'avez dit, ça fatigue. Et il faudra garder l'influx nerveux. Mais c'est important quand même d'aller encourager les autres et leur dire que voilà, on est là, on est une seule équipe de France. Et on est là tous ensemble.
Bon, eh ben moi, je trouve que ça se présente plutôt pas mal, cette histoire. Hein. Je ne sais pas toi, Roman, mais j'ai l'impression que ça va être un carton cet été, donc au Grand Palais éphémère. Et on compte sur toi, évidemment. On te souhaite une bonne fin de préparation, Roman. Il y a un tout petit peu de vacances quand même, un tout petit peu de détente d'ici là, ou pas du tout de détente?
Non, c'est fini les vacances, là, c'est bon, c'est parti.
Merci, Roman. Bonne finale à Roland-Garros, et on te retrouve...
Merci.
Très rapidement sur RMC, évidemment, et on vivra avec toi cette compétition qui aura lieu donc début août, le 2 août prochain, pour les plus de 78 kilos chez les filles, et ce sera le même jour que les plus de 100 kilos pour les garçons. Donc Teddy Riner et Roman Dico qui s'aligneront le même jour, et on suivra évidemment, ce sera la grande journée du judo français. On espère qu'il y en aura d'autres, des grandes journées du judo français d'ici là. 14h35 sur RMC, on revient dans un instant, et on est toujours en direct de Charletti. Ça tourne, les tours s'accumulent, et pour l'instant on est dans les temps du record. On vous rappelle qu'il faut quand même disputer combien, 875 tours, c'est beaucoup ça, 875 tours de piste et 350 km à parcourir. À tout de suite sur RMC, on va partir pour Roland-Garros, justement nous intéresser à la finale dames qui va opposer dans un instant la Polonaise Świątek à l'Italienne. On en parle dans un instant sur RMC, tout de suite. On passe tout de suite à notre journal olympique avec aujourd'hui aux manettes Léna Marjac. Bonjour Léna.
Salut Christophe, salut à tous.
On va commencer avec les championnats d'Europe d'athlétisme qui se déroulent à Rome. Pas encore de médailles pour les Français, mais pas mal d'espoirs de podium, notamment pour Kevin Mayer. Ce ne sera pas aujourd'hui, mais à partir de demain, je crois. Lundi, plus exactement.
Exactement, à partir de lundi, parce que oui, le double champion du monde au décathlon, Kevin Mayer, n'a toujours pas son billet pour Paris 2024. Alors Aurélien Tiercin, le Français, espère bien le décrocher à Rome.
Oui, exactement, ça commence à urger fort pour Kevin Mayer. La période de qualification s'arrête dans 20 jours et Kevin Mayer n'a pas terminé un seul décathlon depuis 2 ans. Désormais gêné en permanence par son corps, il veut enfin décrocher ses minima ici à Rome.
Moi, dans ma tête, c'est dernière chance là. J'ai plus envie d'être dans l'esprit de me dire il y a encore des décathlons après, d'aller galérer, d'aller revoyager, etc.
Alors les conditions sont idéales ici, un grand stade, alors pas beaucoup de public malheureusement, les Italiens ne répondent pas présents. La météo, elle, est au top. Mayer invité de dernière minute en plus par European Athletics, c'est un cadeau du ciel pour venir se qualifier, et uniquement se qualifier, ne vient pas chercher autre chose.
C'est un championnat d'Europe, je suis allé sur le stade tout à l'heure, j'ai qu'une envie, c'est d'exposer la piste, pour être tout à fait honnête. Après, toutes les 5 secondes, je me répète, c'est les minima, c'est pas le titre de champion d'Europe, même si j'ai jamais été champion d'Europe, c'est pas l'objectif cette année.
L'objectif minima, donc 8460 points pour se qualifier directement aux Jeux Olympiques. Il y a également un autre scénario où il marque entre 8000 et 8100 points, ce qui le qualifierait grâce au ranking mondial. Et même si Mayer insiste sur « c'est ma dernière chance ici à Rome », il n'en a pas vraiment fini.
Si je fais zéro sans hauteur, hein, je repars sur un autre décathlon. J'abandonne pas les Jeux comme ça, non.
Et non, il n'abandonnera pas les Jeux comme ça. Lui, le double vice-champion olympique qui veut enfin décrocher l'or au Stade de France à Paris. Donc sa qualification, enfin sa qualif, ça commencera lundi matin avec le 100 mètres à peu près à 10h du matin ici sous le soleil et les 32 degrés du Stadio Olimpico.
Merci beaucoup Aurélien, envoyé spécial à Rome donc pour ces championnats d'Europe. Et on poursuit donc avec quelques résultats de nos autres Français parce qu'en 3000 mètres steeple, trois tricolores sont qualifiés pour la finale des championnats d'Europe. Djellali Bedrani, Alexis Miele et Nicolas Daru, finale prévue lundi soir. Au marteau, Yann Chaussinan, déjà auteur des minima olympiques et lui aussi en finale, comme Quentin Bigot. Et en heptathlon, les records personnels tombent pour Oriana Lazrak-Klass. À 25 ans, elle fait sourire le clan français parce qu'après 4 des 7 épreuves, elle est pour l'instant 3e au classement. Et une grande soirée d'athlétisme nous attend avec notamment Sirena Samba-Mayela en 100 mètres haies, la championne du monde en salle et la première grande chance de médaille d'or lors de ces championnats d'Europe.
La sélection des épéistes français pour les Jeux est tombée cette semaine, Léna, avec un grand absent qui n'entend pas en rester là.
Hein. Ah oui, et ce grand absent, c'est Alexandre Bardenet, pourtant 3e meilleur français et 15e mondial. Mais ce choix de la fédération crée une énième polémique dans le monde de l'escrime français. L'instance justifie la non-sélection de Bardenet par un choix sportif, mais l'épéiste a décidé de contre-attaquer. Il a saisi les conciliateurs du CNOSF pour faire annuler cette sélection, car il estime avoir gagné sa place pour les Jeux Valentin Jamin.
Oui, car Alexandre Bardenet estime que sa non-sélection est, je cite, une sanction déguisée. Après une année où l'ambiance a été délétère à l'épée masculine, en début de saison, les trois meilleurs Français, Yannick Borel, Romain Canon et donc Alexandre Bardenet, ont quitté l'INSEP car ils ne s'entendaient pas avec l'encadrement de l'équipe de France. Les relations ne se sont pas améliorées toute cette saison et donc Bardenet, troisième meilleur Français, estime que le comité de sélection lui a fait payer toutes ces tensions puisque lui a moins de références que ses deux autres coéquipiers Frondeur. Ça a été une grande surprise, si bien que Romain Canon en personne, le champion olympique en titre, a contacté la ministre des Sports pour s'insurger contre cette décision. Yannick Borel aussi soutient Alexandre Bardenet qui dénonce également l'absence du directeur de la haute performance dans ce comité de sélection et attend une audience de conciliation en fin de semaine prochaine pour essayer de faire tout annuler et prouver qu'il mérite d'aller aux Jeux Olympiques à la place ou de Paul Allègre, voire de Luigi Middleton, deux hommes moins bien classés que lui.
Et donc pour rappel, la sélection actuelle des épéistes est la suivante: Yannick Borel, Romain Canon, Luigi Middleton et donc Paul Allègre. Donc une affaire qu'on va suivre dans les prochains jours.
Eh bien, en triathlon aussi, la sélection pour les Jeux crée pas mal de tensions, Léna. Hein.
Oui, parce que la Fédération française a dévoilé cette semaine, elle aussi, donc sa sélection pour les Jeux Olympiques, avec chez les hommes Pierre Lecor, Léo Bergère et Dorian Coninx. Mais face à une forte concurrence et malgré son palmarès, un double champion du monde, eh bien Vincent Louis n'a pas été retenu pour les Jeux. Une annonce qu'il a eu du mal à digérer. Sur les réseaux sociaux, le triathlète français a d'abord dénoncé un choix totalement discrétionnaire et arbitraire avant de revenir dessus et de respecter cette décision, une décision d'ailleurs qu'il ne contestera pas finalement, mais il regrette la manière et surtout le manque de clarté et d'honnêteté de la part de sa fédération. Et justement, vous le savez, en triathlon, il y a une épreuve qui va se dérouler normalement dans la Seine. Alors c'est pas gagné, ouais, parce que la semaine prochaine, lundi, il devait y avoir un entraînement de l'équipe de France de natation en eau libre, un entraînement annulé en raison d'un débit trop élevé de la Seine. Alors Stéphane Leca, le directeur de l'eau libre à la Fédération française de natation, explique cette annulation.
Le courant était vraiment très très impressionnant, quoi. Il était 10 fois supérieur à ce qu'on avait pu voir auparavant à la même période. Donc, ça aurait pas eu de sens de pouvoir nager en fait dans ces conditions-là. Aucun fleuve ou rivière dans le monde où lorsqu'il va pleuvoir dans une grande ville, où est-ce qu'il va pleuvoir sans discontinuer pendant 3 semaines, où la qualité de l'eau va être bonne. Ça n'existe pas.
Alors pour se préparer au mieux pour les Jeux et donc nager dans la Seine, l'équipe de France va quand même essayer de trouver une nouvelle date d'entraînement en espérant que ce débit de la Seine, ouais, puisse s'arranger dans les prochaines semaines, prochains jours.
Donc il faut pas qu'il y ait trop d'eau, faut que l'eau soit pas trop polluée, faut pas qu'il fasse trop chaud. Bref, il y a quand même beaucoup de facteurs à prendre en compte. J'espère qu'il y a quand même une solution de remplacement au cas où la Seine ne serait pas nageable au moment des Jeux Olympiques. On aura l'occasion peut-être d'en reparler. Ça y est, en tout cas la flamme a pris la direction des dom-toms, Léna, notamment de la Guadeloupe, à bord du trimaran Banque Populaire. Et là, ça va envoyer plus qu'avec le Bélème. Hein.
Ah oui, là, c'est de belles images nous attendent. Donc, direction les Antilles, la flamme a pris la mer hier. C'était au départ de Brest. Elle est à bord du maxi trimaran Banque Populaire d'Armel Lecléache. 4 personnalités sont aux côtés du navigateur, dont Marie-Josée Pérec et Xavier Grimaud. Tu étais du coup hier à Brest pour suivre ce grand départ.
Oui, il était 20h10 précisément quand le Maxi Banque Populaire a quitté les pontons de Brest. On va l'écouter sous les applaudissements d'un public venu nombreux toute la journée dans le Finistère.
Les mains en l'air et faites du bruit, Brest !
C'était honnêtement un très joli moment. Il y avait un temps magnifique, grand soleil sur Brest pour dire au revoir à Armel Lecléache, Sébastien Josse, Alexis Michalik, Marie-Josée Pérec, Marine L'Orphelin et Hugo Rollinger. Et autant la semaine dernière, souvenez-vous, on en avait suivi l'entraînement des équipiers, la découverte du bateau. Et il y avait beaucoup d'inconnus, un peu de crainte et d'appréhension. Cette fois, il y avait un seul mot, plaisir total. Tous étaient impatients d'y aller. Et écoutez, Marie-Josée Pérec, elle avait même déjà tout fait le scénario à venir dans sa tête.
Ben une mer d'huile. Un grand soleil, ben, tout le temps. Moi, j'imagine des dauphins. Hein, et puis à bord, en fait, nous sommes déjà une bande de copains. Hein. Je pense que jusqu'à la fin de nos jours, on va s'envoyer ne serait-ce qu'un petit SMS quand on sera plus vieux pour dire « Eh, tu te rappelles hein ?»
Voilà, il y avait beaucoup, beaucoup de sourires tout l'après-midi jusqu'au départ. Beaucoup de complicité entre tout l'équipage, comme Marine L'Orphelin et le chef étoilé, Hugo Rollinger, deux étoiles hein, quand même, à qui on met un peu la pression pour la cuisine.
J'ai amené avec moi quelques épices pour essayer de twister un peu les plats appertisés qu'on va avoir. Mais bon, je garantis pas de miracle, mais on va essayer. On va déjà essayer de faire réchauffer notre nourriture sans se brûler.
Ouais, c'est déjà pas mal.
Ce sera déjà pas mal.
Le stress semblait avoir totalement disparu hein, chez les équipiers. Il avait laissé place à une émotion très forte. Les yeux qui étaient humides hein, au moment de la montée à bord de la lanterne avec la flamme. C'est Laurie Tillman, la brestoise, qui l'a donné à Armel Lecléache. Mais la plus touchée de tous, ça restait sans doute Marie-Josée Pérec, l'enfant de la Guadeloupe, qui racontait avec son cœur avant le départ ce que lui procure son arrivée prochaine sur sa terre natale avec la flamme et ce bateau.
Je pense que l'Outre-mer attend vraiment cette flamme avec impatience. Enfin, les gens vont pouvoir vraiment vivre ces jeux d'un peu plus près. Parce que comme je l'ai déjà dit plein de fois, hein, quand on vit en Outre-mer, on a l'impression que la France est loin. Et donc là, vraiment, la flamme, elle va chez les gens. Ils sont heureux. C'est une belle reconnaissance pour toutes les îles, ce qu'ils ont apporté au sport. Je trouve que c'est une belle manière aussi de leur dire merci. Et moi, tout ça, ça me touche parce que j'ai grandi en Guadeloupe. Je suis partie à 16 ans, donc la Guadeloupe, c'est dans mon cœur. Elle m'a beaucoup manqué. De revenir de cette manière-là, je n'ai jamais rêvé de ça. Donc, c'est quelque chose de très fort et de très grand. Voilà.
Et le 15 juin, si tout se passe bien, on croise les doigts, ce sera bien sûr elle, hein, Marie-Josée Pérec, qui sortira du bateau en tête avec la flamme pour l'emmener sur ses terres. Ce sera au petit matin là-bas, à la mi-journée en métropole, et dans une ferveur qu'on annonce déjà magnifique. Rendez-vous désormais dans 7 jours.
Merci beaucoup Xavier. La flamme hein, est en direction donc des Dom-Tom, mais cette semaine elle a quand même créé quelques tensions à Lille, notamment la raison. Olivier Létang, le président du LOSC, doit porter la flamme olympique, mais par contre il refuse de libérer ses joueurs pour les Jeux Olympiques. Alors la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra lui envoie un message.
Mais il va falloir essayer d'ici le 3 juillet, essayer vraiment que chacun fasse ses meilleurs efforts. Et les Jeux, c'est une fois par siècle. C'est une aventure extraordinaire pour leurs joueurs. Le cas de Lille, il est peut-être le plus complexe de tous. Pour tous les autres clubs, c'est vraiment un appel de ma part à essayer de faire tout ce qui est en leur capacité, dans le respect des exigences de santé pour leurs joueurs, pour essayer qu'on constitue tous ensemble la meilleure équipe olympique. On le regretterait si ce n'était pas le cas.
Et donc les trois joueurs lillois hein, qui sont concernés par le veto mis par Olivier Létang sont Lucas Chevalier, Bafodé Diakité et Léni Yoro.
Merci beaucoup Léna, je ne suis pas sûr que le message de la ministre, qui va courir d'ailleurs ici à Charletti, sera bien accepté et bien enregistré par Olivier Létang, le président du LOSC. Merci Léna et bonne fin d'après-midi, tu reviens demain pour une nouvelle édition du Journal Olympique.
Votre rendez-vous sur RMC avec Roxy, équipementier officiel de la Fédération Française de Surf. Les produits Roxy sont disponibles chez Intersport.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.